Je voudrais vous lire un texte qui est le premier chapitre de Néhémie. Et je vais vous le lire par extrait, à partir de Néhémie chapitre 1, verset 1. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. » Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs et des Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi, oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Je vais au verset 11. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Au début du chapitre 2, durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? On va s'arrêter là. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est Ézéchiel qui dit ça. Prophète Ézéchiel qui cherche un homme, ou même Dieu qui cherche un homme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et on peut dire que ce texte qu'on vient de lire de Néhémie est peut-être une réponse, un de ces hommes qui s'est levé pour construire un mur, qui s'est levé pour se tenir à la brèche. Alors quand on vous parle de Néhémie, je crois que c'est important de replacer dans quel contexte il est Néhémie, parce qu'autrement on ne comprend pas grand-chose. Néhémie, c'est... En Israël, vous avez un pays qui était uni en gros jusqu'à la fin de Salomon. Et à partir de la mort de Salomon, le pays se divise en deux entités, un royaume du nord, qui s'appelle le royaume d'Israël, avec 10 tribus, un royaume du sud, qui est celui de Juda. Le royaume du nord va très vite être déporté par les Assyriens, il va être déporté en 722. Et le royaume du sud va être déporté par les Babyloniens en 605, on est avant Jésus-Christ. Ces deux royaumes donc se trouvent d'un côté le royaume du nord ne va jamais réapparaître, les 10 tribus sont perdues, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, tandis que le royaume du sud déporté par les Babyloniens, une partie va retourner à Jérusalem en 538, et entre 605 et 538, allez, à quelques années près, on est dans ces 70 ans de captivité en Babylone. Et là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette partie à partir de 538, le retour à Jérusalem. Là, il faut qu'on le replace aussi rapidement dans son contexte, parce que souvent, c'est un petit peu flou dans nos têtes. En 538, avant Jésus-Christ, sous le nouveau gouvernement du roi Cyrus, les Juifs qui sont là vont avoir la permission de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple sous la conduite de Zorobabel. Ce sont, avec Zorobabel, les 6 premiers chapitres d'Esdras. Ils vont commencer à poser les fondations et il va s'écouler 15 ans avant que le temple soit vraiment reconstruit. Ça va prendre du temps. C'est dans ce temps-là que se passe l'histoire d'Esther. Esther qui devient reine et qui sauve son peuple d'un génocide qui était prévu, annoncé. Et 80 ans plus tard, Esdras arrive. Esdras qui vient en 458 avec d'autres juifs. Il revient à Jérusalem et il va en gros faire une grande réforme spirituelle, Esdras. Il va s'intéresser à remettre de l'ordre dans le peuple, parce que le peuple à Jérusalem est dans un état spirituel qui est déplorable. Il va entreprendre un ministère d'enseignement qui va finalement trouver écho quand Néhémie arrive, un peu plus tard. Donc il va s'établir 80 ans entre l'arrivée de Zorobabel jusqu'à l'arrivée d'Esdras. Ça va prendre du temps. Hein. Esdras, pendant 13 ans, va enseigner. Il dira d'ailleurs, c'est chapitre 9, verset 9, Esdras, il dira: car nous sommes esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a étendu sur nous sa bienveillance devant les rois de Perse pour nous rendre la vie. C'est Cyrus qui leur donne la possibilité de retourner. Hein. Afin que nous relevions la maison de notre Dieu et que nous redressions ses ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Donc le livre de Néhémie, on y arrive seulement, s'étend sur une période de 20 ans. Il commence en 445. Donc, on a dit 13 ans après l'arrivée d'Esdras. La reconstruction des murailles, c'est seulement 52 jours. Donc ça se fait très vite. Mais par contre, pendant 20 ans, Néhémie va travailler à la reconstruction des murailles spirituelles du peuple. Et ça prend beaucoup plus de temps. C'est rien de construire un bâtiment. Par contre, construire l'église, ça c'est compliqué. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que pendant 90 ans, de 538, là où ils retournent, ils reconstruisent le temple, ils sont incapables de faire des murailles autour de Jérusalem. Pendant 90 ans, c'est impossible. C'est très vite après avoir reconstruit le temple du temps de Zorobabel, si on relie le début d'Esdras, ils vont essayer de construire les murailles, mais impossible de faire. 90 ans, c'est long. Hein. 90 ans où il y a impossibilité de faire ça, mais où il y a des hommes quand même qui sont placés au bon endroit et qui assurent qu'un jour ça soit possible. Parce que sans Zorobabel, sans Esther, sans Esdras, je ne sais pas ce que Néhémie aurait fait. Alors, il y a des moments dans la vie où on dit ça avance pas, mais Dieu a placé des hommes et des femmes qui permettent qu'un jour ça reparte, qu'un jour on puisse continuer et passer à l'étape suivante. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à ne pas oublier. Même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe des choses, parce que Dieu prévoit les choses. Et voilà, voilà dans quoi Néhémie va arriver. Et Néhémie, ce qui me frappe, et c'est pour ça que c'est intéressant d'un petit peu voir ce qui se passe chez lui, c'est qu'il s'intéresse aux autres. Et la meilleure façon de s'intéresser aux autres, c'est de poser des questions. Dans sa vie bien réglée, bien organisée, Néhémie nous parle de la visite d'un de ses frères, Hanani, qui vient lui faire une visite et qui fait que sa vie va basculer. Il est dit, je l'ai questionné, Hanani et les amis qui étaient avec lui, au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem, parce qu'il a ça vraiment à cœur. Et souvent, quand on a des gens qui arrivent et qu'on voit, on leur dit comment ça va, et puis on n'attend pas de réponse concrète. On attend, ah oui, ça va bien. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'en savoir plus, parce qu'on n'a pas le moyen de résoudre leurs problèmes, parce qu'on n'a pas le temps, enfin, il y a mille raisons de ne pas avoir envie qu'ils nous répondent réellement. Et je crois qu'il faut de temps en temps le courage de poser des questions, parce que le courage de poser des questions va peut-être changer notre vie. En tout cas, le courage de poser cette question pour Néhémie, ça va changer sa vie. Quand vous allez voir des personnes qui souffrent, voir dans quoi elles vivent, voir comment elles vivent, on risque d'être bouleversé. Et des fois, l'orientation de notre vie peut changer. Être appelé par Dieu, je crois que pour Néhémie, ça a commencé par reconnaître l'existence d'un besoin. Et on parle souvent d'être appelé par Dieu. Mais avant d'être appelé par Dieu, je crois que Dieu peut mettre dans notre cœur un besoin. Il peut, juste parce qu'on s'est intéressé à quelqu'un, faire naître un besoin. Il ne faut pas forcément attendre des choses extraordinaires. Là, Dieu qui vient, voilà, nous parle au milieu de la nuit, on voit une vision. Néhémie, ça ne commence pas comme ça. Il pose une question. Comment ça va à Jérusalem? Et là, c'est la question qu'il ne fallait pas qu'il pose. Bon, on pose des questions, mais ça ne suffit pas si on n'écoute pas la réponse. Hein, on est bien d'accord. On dit souvent Dieu ne m'a pas appelé, mais je crois qu'on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'on a pris le temps d'écouter l'appel de Dieu? Pour cela, il faut se tenir à portée de voix. Quand j'étais gamin, et que j'avais faim à l'heure de midi, je descendais la musique pas trop fort, j'ouvrais la porte, entrebâillée, parce que j'attendais le moment où maman appelait et disait « C'est prêt, venez manger !» Si j'avais pas faim, je laissais la porte fermée, la musique à fond. Là, on n'avait pas les mêmes dispositions. Et je crois que, écouter la réponse de Dieu, écouter l'appel de Dieu, ça va dépendre de prendre le temps, la capacité d'écouter. Si on ferme la porte, si on ferme tout et qu'on verrouille à double tour, on n'entendra rien. Se tenir à portée de voix, parfois lever nos yeux. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter cet appel de Dieu. Dans Jean 4, 35, c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Parce qu'il restait 4 mois avant la moisson, c'était bien ça. Eh bien, je vous dis, et c'est là qu'il interloque Jésus, hein, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Vous dites qu'il y a 4 mois qu'il faut attendre, moi je vous dis, levez les yeux, regardez, il y a, la moisson est prête. Je crois qu'on a toutes les infos qu'il faut pour répondre aux besoins du monde, aux besoins de l'Église. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'attendre, attendre et encore attendre, de dire encore dans 4 mois, encore dans 6 mois, encore dans 2 ans, je ferai quelque chose. Et je pense que si chacun en répondait à l'appel, une grande partie des besoins du monde disparaîtra. La réponse d'Adani et de ses frères, c'est de dire « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches, ses portes sont brûlées par le feu. Les murs de Jérusalem ont été détruits par Nébuchadnezzar. » Trouvez ça dans 2 Rois 25. Et cela fait près d'un siècle et demi qu'ils sont détruits. Toutes les tentatives faites pour reconstruire le mur, on l'a vu, ont échoué. Et du coup, Jérusalem n'est plus défendable. Elle est en proie à n'importe qui. Il n'y a pas si longtemps, au Moyen-Âge, nos villes, sans une bonne muraille, elles ne valaient rien, on ne pouvait pas les défendre. On n'a juste plus idée de ce que représente une muraille. Mais une muraille était fondamentale dans ce temps-là. Et la troisième chose, c'est se laisser interpeller. Quand vous connaissez l'existence d'un besoin, alors votre responsabilité est grande. Ah, vous allez dire, pour se décharger la conscience, on va faire un chèque, vous donner une pièce. Néhémie ne fait pas un chèque. Il va faire bien plus que ça. Il avait pourtant de bonnes raisons de ne pas s'intéresser à eux. Néhémie n'avait jamais connu Israël avant la déportation. Il ne faut pas oublier que la déportation, c'est 160 ans avant ce moment-là. 160 ans. Pour nous, 160 ans, c'est la guerre de 1870. On n'a pas fait, ça ne nous dit pas grand-chose, hein, la guerre contre les Prussiens. Il est né en captivité, Néhémie. Il n'a toujours connu que Babylone. Pourquoi s'intéresser à Jérusalem? Il avait une bonne raison de ne pas s'intéresser. Et la deuxième chose très importante pour lui, il avait un super job, Néhémie. Les chansons du roi, il s'occupait des boissons du roi à Suse, dans le grand palais, résidence d'hiver du roi Artaxerxès. Sa fonction, c'était goûter le vin du roi pour voir s'il n'était pas empoisonné. Alors, c'est un peu, ça peut être un peu chaud, hein, comme fonction.
C'est un boulot à risque.
Donc il avait des primes de risque, il était bien payé. Bien payé, on le sait, parce que si vous remontez un peu plus loin dans le livre de Néhémie, il est dit qu'il a pu subvenir aux besoins de tout son gouvernement, des gens qu'il invitait à sa table, il payait tout sur sa caisse personnelle, parce qu'il était parti avec sa solde. Il faut savoir que c'était un risque, parce que le père de ce roi-là, il avait été assassiné. Donc, un bon boulot, boulot à risque, mais bon, on ne lâche pas un boulot comme ça, a priori, hein. Et on pourrait se dire, j'ai autant de besoins, je suis interpellé, mais pour telle, telle ou telle raison, j'ai pas envie que Dieu m'interpelle. J'ai pas envie que ça m'arrive, ça me concerne pas vraiment. Moi, je vois que chaque fois que je me suis laissé interpeller par Dieu, finalement, ça a changé quelque chose, effectivement, dans ma vie, ça a changé une orientation. Mais j'ai jamais regretté. Je regrette les fois où je ne me suis pas laissé interpeller. Parce que je pense que j'ai loupé quelque chose. Et l'autre chose qui est tellement fondamentale, parce que le cœur de Néhémie, c'est un cœur que Dieu va transformer. Non seulement il s'intéresse à l'autre, mais il est en interaction avec Dieu. Souvent on se dit la prière, ça ne change pas grand-chose. On entend souvent ça, souvent des non-chrétiens, évidemment. J'espère qu'en tant que chrétien, on ne pense pas la même chose, parce qu'il y a des moments où on peut penser la même chose. Il y a des moments où on se dit la prière, je prie, puis ça ne change rien. Et Néhémie, là, nous parle de son expérience dans la prière, et je la trouve vraiment fondamentale. Un jour qu'il était sans force et découragé, c'est le jour où on lui apporte cette nouvelle, Jérusalem, ça ne va pas du tout, il prie. Il commence à prier vraiment pour Jérusalem. Il priait peut-être déjà avant, mais là on voit qu'il commence vraiment à prier. C'est le jour où certains d'entre nous, quand ils reçoivent une mauvaise nouvelle comme ça, ils s'arrêtent de prier. Parce qu'ils disent, ah non, j'ai assez prié pour Jérusalem. Et c'est là que Néhémie décide vraiment de prier. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le maître mot. Qui a compris Jérémie, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples dans Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que ça c'est fondamental. Sans lui, on ne peut rien faire. Effectivement, sans lui, il y a de quoi se décourager. Parce qu'on n'arrivera à rien. Et Néhémie réalise ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que dans la prière, tout d'un coup, sa vue devient claire. Il commence de prier, il voit ce qui empêche le projet de Dieu depuis 90 ans. Parce qu'il se rend compte que ce qui empêche le projet de Dieu, ce n'est pas les autorisations. Ils ont réussi à avoir les autorisations de Cyrus, du roi Cyrus, il y a 90 ans pour venir. Alors c'est pas parce qu'ils sont empêchés dans tel ou tel cas avec des gens qui s'y opposent que c'est ça le problème. C'est pas les finances. Ils ont toujours trouvé l'argent pour faire quand il fallait. C'est pas le manque de main d'œuvre quand il fallait s'y mettre que les gens venaient. Ce qui empêche le projet depuis 90 ans, ce qui fait que c'est impossible à faire, la barrière qui se met entre l'action de Dieu et qui empêche cette action de Dieu, qui empêche la bénédiction de Dieu, c'est le péché non confessé du peuple. C'est la première chose qui vient dans cette prière. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites. Il commence par là, Néhémie. En confessant nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi, nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Moi et ma famille, il s'inclut dans la confession. Pourtant, Néhémie se trouvait là sans que ça soit de sa faute, ni la chute de Jérusalem, ni la déportation. C'était pas lui. Il en subissait les conséquences, pourtant il s'humilie. Il s'humilie devant Dieu, on trouve ça au verset 4, pas pour un péché spécifique, mais pour leur manque de persévérance, leur manque de confiance en Dieu, pour ce qu'ils ont mal fait, mais aussi pour tout ce qu'ils n'ont pas fait, pour ces 90 ans qu'ils ont laissé passer. Quand il prie, sa vue devient claire, mais aussi il met tout son cœur. Il prie comme pour une bataille. Il a dit qu'il va pleurer. Et je crois que pour prier, il faut réellement être touché. Si la chose ne nous touche pas, on ne prie pas. On prie, on fait une petite prière. Au bout de 2 jours, on a oublié. On passe à autre chose. La prière où véritablement, qui fait bouger les choses, je crois que c'est une prière où on est touché. Et ça accompagne de jeûne pour Néhémie. Mais attention, pas n'importe quel jeûne, un jeûne véritable. Un jeûne comme il est dit dans Ésaïe 58, verset 3, « Que nous sert de jeûner, tu ne le vois pas, de nous humilier, tu n'y as pas égard. C'est que le jour de notre jeûne, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. » En gros, ce que dit dans Ésaïe à ce moment-là, c'est « Que vous sert de jeûner si vous ne changez pas ?» Le jeûne comme les larmes, ça ne sert à rien si votre spiritualité ne devient pas concrète. Et la suite d'Ésaïe, c'est « Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » C'est Ésaïe 58, vous pourrez relire ce texte. Cela ne sert à rien de jeûner si tu ne t'engages pas à reconstruire tes murailles. Si tu ne t'engages pas à reconstruire les murailles du monde qui nous entoure, les murailles de l'Église. Si tu ne t'engages pas concrètement à répondre aux besoins qui se présentent devant toi. Ça ne sert à rien de jeûner, de prier, de pleurer. Si derrière, quelque chose ne se met pas en route. Donc le véritable jeûne nous pousse à nous engager dans quelque chose de nouveau. C'est une prière où il met tout son cœur, parce qu'il la fonde sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Il rappelle les promesses de Dieu. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse. C'est une prière qui est également persévérante. Il a dit, je m'assis, je pleurais pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais. Il dit, si je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit. Je crois que la prière, elle peut importuner Dieu. On n'a pas à avoir peur de ça. Vous savez, dans Luc 11, 8, Jésus dit à ses disciples, c'est, imaginez un homme qui vient de nuit, qui tape à la porte, qui tambourine, qui vous réveille. Vous allez vous retourner dans votre lit, vous allez dire, oh, il fait trop froid pour sortir, j'actualise la parabole, hein, parce que c'est moins froid qu'ici. Et puis au bout d'un moment, vous en avez tellement marre, parce qu'il tambourine à votre porte, vous allez vous lever, lui donner le bout de pain qu'il réclame, puis il dit, bon maintenant, laisse-moi mon ami. Et ça pour dire que on a le droit de demander à Dieu autant qu'il faut. On ne saoule pas. On ne saoule pas de venir. On n'aura jamais trop de persévérance. On ne va jamais trop prier. Jamais il nous dira, ah vraiment, tu m'as saoulé avec ça. Non, on a le droit de l'importuner. Néhémie, et c'est ça qui est intéressant, il va vraiment comprendre ça. Et il y a une chose qui est fondamentale, c'est que d'être en interaction comme ça avec Dieu dans la prière, il va changer. Il va prier pendant 4 mois, par moments jour et nuit. 4 mois de prière, d'intercession. 4 mois de prière pour avoir, je dirais, accès aux ressources infinies de Dieu. Néhémie était devant un problème insurmontable. Jérusalem, depuis 90 ans, est ouvert à tous les vents et à tous les ennemis. est dans un état de décrépitude totale. Non seulement les murailles qui sont en ruine, mais en même temps spirituelles. Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Mais là où vraiment Néhémie doit nous aider à comprendre, c'est que lui va remettre le problème à Dieu réellement. Et comme il remet le problème à Dieu et qu'il prie réellement pour ça, il a 4 mois de prière pour comprendre les choses. Pour comprendre que Néhémie lui-même allait devenir un maillon indispensable au plan de Dieu pour Jérusalem. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, en priant pour quelque chose, que le Seigneur trouve quelqu'un pour faire ça, que le Seigneur me dise, c'est à toi de le faire. Ça m'est arrivé de lutter dans la prière pour dire, Seigneur, non, j'ai pas envie de le faire. Parce que, pour X raisons, des bonnes raisons, des raisons très humaines, pas le temps, pas ci, pas ça. Et quand on lâche à un moment donné dans la prière, quand on prend la chose, tout d'un coup on retrouve la paix. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre, hein, de dire, voilà, en fait c'est de toi dont j'ai besoin. Et là c'est ce qui se passe, hein. C'est ce que Dieu lui dit, je vais avoir besoin de toi. L'autre chose qui va lui faire comprendre, c'est qu'Artaxerxès, ce roi qui sert, est la clé de la solution. Encore une autre chose, ce roi qui sert, Artaxerxès, n'est qu'un homme. C'est bien qu'il n'est qu'un homme, mais que c'est quand même un homme qui a pouvoir de vie et de mort sur lui, sur tous les autres hommes. Mais c'est un homme comme les autres. Et en priant, il va se rendre compte, on le voit très bien dans sa prière à un moment donné, c'est qu'il est serviteur du Dieu Tout-Puissant, Néhémie. Et que s'il a à craindre une personne, s'il a à vénérer une personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et pas Artaxerxès. Et alors à la fin, il va dire, donne-moi la faveur de cet homme. C'est très étonnant le mot qu'il utilise. Il le replace à son bon niveau. 4 mois de prière pour être prêt à payer le prix. Parce que on dit souvent 4 mois de prière. Enfin, on peut penser 4 mois de prière c'est long, mais pour payer le prix, pour être d'accord de payer le prix, c'est court. Il a 4 mois pour se lancer. Il va dire, terminer sa prière en disant, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Il se lance, il y va. C'est aujourd'hui le jour, au bout de 4 mois. 4 mois de prière pour être prêt à quitter son job. Pas évident. Peut-être pas trop risqué parce qu'il va garder, comme je vous l'ai dit, sa solde. Il va être payé pendant ce temps-là. Mais parfois, c'est quand même pas évident. Mais le pire, là où il paye le prix, c'est s'adresser au roi. Ça nous paraît rien. Mais vous savez, on le voit avec la reine Esther, que dans la même époque, avec les mêmes types de rois, que s'adresser au roi sans en avoir l'autorisation était passible de mort. Dans les bas-reliefs de cette région de ce même temps, on voit que ceux qui parlent au roi, ils mettent leurs mains devant la bouche pour que le souffle de leur bouche ne puisse pas atteindre le roi. Et Néhémie ne sait pas comment présenter la chose. Il dit, c'est aujourd'hui le bonjour, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Et il est devant le roi, il est en train de le servir, et il est en train de se dire, mais comment je vais pouvoir faire pour m'adresser au roi? Et là, il y a un miracle qui se produit, c'est le roi qui le voit. Il dit, pourquoi tu as le visage triste? Il devait être vraiment obsédé par ça. Il dit, t'es pas malade? Ça peut être qu'un chagrin de cœur. Et là, autre rebondissement, au lieu de dire, c'est génial, le roi l'a vu, je peux y aller. Néhémie, dans son récit, dit, je fus saisi d'une grande crainte. Parce que, autre problème, c'est qu'il n'est pas permis de se présenter devant le roi avec le visage triste. Vous le retrouvez dans Daniel, ça. Daniel qui était aussi de la période d'exil, quand il se met au régime avec que des légumes, et puis que celui qui s'occupe d'eux, il leur dit, attention, tu vas avoir un visage, si tu ne manges pas de viande, amaigri, triste devant le roi, et moi je risque de passer ma tête, quoi. Pas marrant de travailler avec des gens comme ça, hein, vous allez me dire, hein. Mais il risquait tout ça, hein. Et ce qui semble être un problème majeur, devient, je crois, un atout quand Dieu l'utilise, pour permettre au roi de poser les bonnes questions. Et ce visage triste, finalement, il donne l'occasion à Néhémie d'exposer son cas. Mais là, encore un autre problème, un autre risque. c'est que Néhémie connaissait bien la position de ce roi sur Jérusalem. Quelques années auparavant, ce même roi, Artaxerxès, on trouve ça en Esdras 4, avait ordonné de faire cesser les travaux de réparation des murailles qui avaient recommencé. Parce qu'on lui avait dit que Jérusalem était une ville de rebelles. Et Néhémie venait lui demander à ce moment-là l'autorisation de se dédire. Vous savez que la loi des Perses et des Mèdes ne se change pas. Et Néhémie va répondre, pourquoi as-tu le visage triste? Il répond en disant, pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Et là, on voit que Néhémie est un homme intelligent. Il ne dit pas, pourquoi j'ai le visage triste? Parce que Jérusalem est détruite. Il ne dit pas ça, il ne prononce pas le mot de Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est une ville rebelle pour ce roi-là. Pourtant, le roi connaît son origine ethnique. N'oubliez pas, il était échanson du roi, il goûtait son vin pour voir s'il n'était pas empoisonné. Il s'était renseigné sur le gars qui avait embauché le roi. Il savait d'où il venait. Il savait bien qu'il venait de cette région-là. Il ne pouvait pas l'ignorer. Mais il y a des mots comme ça qui bloquent tout. Et utiliser le mot de Jérusalem était un mot bloquant. Alors, beaucoup plus intelligent que ça, il va utiliser d'autres mots. Il va parler du tombeau, la ville où sont les tombeaux de mes ancêtres ou de mes pères. Dans une société où on a un grand respect pour les ancêtres, c'était plus judicieux d'utiliser le mot Jérusalem. On voit toute la délicatesse et le tact d'un ennemi qui est capable de tenir compte de la personne qui est en face de lui. Et je crois que c'est pour nous une belle leçon. Il faut à la fois être hardi, parce qu'il est hardi, il faut à la fois ne pas avoir peur de payer le prix, et en même temps le faire, avec tact et intelligence. Ça ne veut pas dire y aller comme un bourrin. Je crois qu'aucun changement n'est possible sans véritable coût, sans rien à payer. Que si on veut défendre la cause de Dieu, si on veut s'engager vraiment pour Dieu, il faut qu'on paye quelque chose. Et 4 mois de prière pour échafauder un projet. Parce que quand le roi lui demande comment l'aider, on voit Néhémie qui adresse une prière flash. Il dit à Dieu, au secours, aide-moi maintenant. Et je crois que sa prière, ce n'est pas tellement pour dire qu'est-ce que je veux dire, c'est pour dire comment je vais le dire. Parce qu'il lui ouvre une fenêtre là de tir, mais comment il va rentrer dans cette fenêtre? Il ne savait pas comment, quelle occasion il aurait. Et là il dit, et là aussi Néhémie fait preuve de beaucoup de tact, il dit, si le roi le trouve bon, il met le roi comme participant à son projet. Il le remet à son bon niveau. Il ne dit pas, moi, j'ai décidé que. Il dit, si le roi le trouve bon, on pourrait faire ça. Je pourrais faire ça. Il ne se met pas à la place du roi. Et le roi va demander la durée du voyage. Néhémie va y répondre précisément. Le texte ne le dit pas, mais si on relit plus loin dans Néhémie, on va voir que le voyage va durer 12 ans avant qu'il revienne la première fois, qu'il reparte. Et le roi va donner l'autorisation. Et Néhémie, une fois qu'il a l'autorisation, non seulement il ne s'arrête pas là, il va profiter pour présenter quelques points pratiques. Il va dire, s'il plaît au roi qu'on me donne, et là son plan est très précis, il va demander un libre accès dans les différentes provinces traversées, qu'il a un papier où il peut circuler librement, libre accès aux matériaux, il va dire, voilà, c'est pour Asaph, le garde forestier, je veux ses bois, etc. Enfin, un vrai plan, hein. Il va demander une troupe pour sa protection. Je crois que la prière débouche toujours sur l'action. Si votre prière ne débouche sur rien, peut-être qu'elle n'a pas encore été au bout. Je crois que c'est fondamental que la prière débouche sur quelque chose dans notre vie qui change. Et pour terminer, je dirais 4 mois de prière pour devenir ou rester humble. Parce qu'à la fin, de tout ça, sa conclusion, c'est pas qu'est-ce que je suis bon. On la trouve au chapitre 2, verset 8, parce qu'on pourrait dire ça, hein, parce qu'il était quand même doué. Chapitre 2, verset 8. Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il ne dit pas que le roi lui accorda parce qu'il avait été doué, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je crois que ça, c'est fondamental. Quand on est en interaction avec Dieu, il nous reste et nous garde humbles. Parce qu'on se rend compte que là où il répond, on était juste incapable. Que lui transforme tout ce qu'on fait, qui permet que les choses se passent de cette manière. Et alors là, il est prêt. Hein. Il est prêt, il va arriver à Jérusalem, il va retransmettre l'appel. Il va dire au peuple, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Il va leur dire en gros, je cherche un homme, je cherche une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de ce pays. Il va leur dire, voilà, voilà le besoin. Comme lui-même a été touché par le besoin, il va faire le tour des murailles, on trouve ça au chapitre 2, il va dire, c'est catastrophique, voilà le besoin, mais je cherche des gens qui veulent rebâtir avec moi. Il va les motiver. Il va leur demander de changer, de rentrer dans la prière, de s'humilier devant Dieu. Et la réponse du peuple, ça va être « Levons-nous et bâtissons ». C'est une réponse unanime. 90 ans qui disent « On n'y arrive pas ». Un homme vient, leur dit « Levez-vous et bâtissez ». Ils disent « Levons-nous et bâtissons ». Simplement parce que Dieu est intervenu. Simplement parce que il y a eu un ennemi qui est passé par là, un ennemi qui a écouté les besoins, qui s'est senti interpellé, qui s'est engagé. Mais avant lui, tant d'autres hommes, un Zorobabel, un Esdras, qui ont préparé le terrain. Donc la seule chose que j'aimerais vous laisser, c'est face aux besoins de l'Église, à l'église ici à la Vosges, mais aussi partout, face aux besoins de Dieu dans le monde, face aux besoins de notre société qui est en miettes, qui part en lambeaux bien souvent, Dieu cherche des hommes et des femmes qui élèvent un mur, des murailles, qui se tiennent à la brèche devant Dieu en faveur de ce pays. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est pour cette nouvelle année là qui commence en 2017, c'est de vous tenir la brèche et d'élever des murailles pour permettre de rester à l'abri. Parce que je crois vraiment qu'il y a un moment donné, on doit aussi être à l'abri devant le Seigneur, mais avec des portes pour ouvrir sur le monde, des portes pour que les gens puissent venir, qu'on puisse sortir, que les gens puissent rentrer, évidemment. Mais on a besoin de mettre à l'abri nos églises, de se mettre à l'abri nous-mêmes devant le Seigneur, de rester autour de ces murailles de la parole de Dieu. Et j'espère juste que chacun de nous puisse être ces hommes et ces femmes qui construisent ces murailles pour le Seigneur. Je voudrais prier. Seigneur, nous te remercions et te bénissons parce que tu es un Dieu qui vient nous chercher, qui nous appelle, qui met des besoins sur notre cœur, qui permet que nous soyons interpellés par les besoins. Et je te prie vraiment que tu puisses nous interpeller par les besoins qui sont autour de nous. Tu puisses changer notre cœur, Seigneur, et nous permettre de nous apprendre à toi, et de nous engager avec toi parce que nous avons tellement besoin d'hommes et de femmes qui construisent des murailles, qui restaurent les portes de nos églises, de ton royaume, Seigneur. Tellement besoin de voir cela, tellement besoin de voir des chrétiens de toutes sortes, de toutes confessions, de toute origine, Seigneur, à l'œuvre pour ton royaume. Merci d'y participer et d'être coparticipant à ce travail de restauration. C'est en ton nom, au nom de Jésus qui nous permet de nous lever, que nous te prions. Amen.